Salut Marc et salut les Smart, salut peuple de catch-up. Bienvenue dans votre podcast qui chouine, qui dégouline, qui transpire le catch à grosses gouttes d'huiles essentielles. Chaque semaine, nous analysons, décryptons, décortiquons, encensons et parfois démolissons les shows de la WWE. Aujourd'hui, on se retrouve pour commenter, analyser un pay-per-view. En l'occurrence, une semaine après SummerSlam, on a eu le droit à un payback. Et voilà, ça enchaîne. Le catch, c'est comme ça. On a à peine le temps de se retourner que paf, déjà, il se passe autre chose. Donc voilà. Donc là, c'était rembourser vos invitations. On avait le droit à payback. Alors, je suis votre dinosaure. Que dis-je ? Je suis votre Luchasaurus des podcasts. Je suis votre tonton Chris. Et je suis en mode trios pour cette review, pour cette grosse analyse du pay-per-view payback. Alors, le premier de mes partners of the day, on va commencer dans l'ordre de l'âge. Allez, allez le papy ! Comment ça va le papy ?
Bonjour les petits enfants, bonjour tonton, ça va, payback is a bitch, et justement, pour une bitch, il fallait que je sois là.
Ouh, ah là là, ça commence fort. Et l'autre mode trios, c'est tout simplement notre ignoble et national, Ringside. Comment ça va Ringside ?
Ça va bien, salut les amis, je suis dégoûté parce que papy a piqué ma blague sur payback is a bitch, mais...
Merde.
Fallait vous concerter avant.
Motivé. Voilà, bah oui, c'est ça, on se concerte jamais, on prépare jamais rien. Et du coup, voilà, on se retrouve gros gens comme devant. Oui, non, super heureux de partager ce moment avec vous et cette analyse de payback.
Ok, et eh ben on va rentrer dans les trucs que vous avez pas vus.
Il y a R2D2 aussi.
Voilà. Ça commence déjà avec. On commence déjà à être dérangé par la police, vous voyez, voilà, à peine. Hein. Ça plaît pas à Vin, ces analyses de catch-up, c'est pour ça.
Ça.
Alors, on va attaquer avec les trucs dont vous n'avez pas vu, je disais donc, en l'occurrence, le pré-show. Le pré-show. Un pré-show magnifique, un pré-show magique, un pré-show avec des faces, avec des heals. Le Riot Squad qui affronte les Iconics. Alors, attention.
Qu'est-ce qui s'est passé ?
Elles ont eu droit à 9 minutes. Ok ?
Ouf.
Alors, vous arrêtez tous de déconner tout de suite maintenant, ok ? 9 minutes. Et c'est... Alors, je sais plus, hier, c'est Papy qui avait donné les Iconics, qui avait donné les méchantes ?
Ouais !
Ah, Papy, la règle en pré-show, c'est que c'est les faces qui gagnent. Et ça n'a pas manqué, c'est le Riot Squad dans un match pas vraiment intéressant, voilà, qui aura finalement gagné le match, quoi. C'est Ruby Riot qui va effectuer le tombé sur Peyton Royce avec son codebreaker de Liv Morgan là et le Riot Kick, voilà. Et à la fin du match, après, elles y ont retrouvé le panel, quoi, et elles vont nous annoncer qu'elles sont de retour. They are back. Alors Ringside, t'es très impressionné, tu as peur de ce retour des Riot Squad?
Ouais, ça me fait trembler dans mes chaussettes. Ouais, elles sont venues avec un nouvel outfit où elles sont assorties, hein, en jaune avec des petits carrés jaunes comme ça, les Riot Squad. Oui. Donc on voyait que c'était parti pour la vie, hein, cette fois-ci. Le match, il était mauvais, c'était ignoble. Quand elles réussissent des prises, on a l'impression qu'elles botchent quand même. Donc, c'est quand même délicat. C'était interminable. Il y avait toute cette histoire de comment elle s'appelle, Liv Morgan, qui était encore une fois pas sûre d'elle, qui a failli quitter le match, etc., etc. Mais finalement, les gentils sont restés unis, elles ont gagné. Non, c'était vraiment pas bon. Il y a vraiment une grosse différence de niveau entre ces quatre-là et le niveau supérieur qu'on aura notamment là pendant le pay-per-view, va être complètement dispensable. Alors, s'ils veulent accrocher le public avec ce type de prestation pendant le kick-off, c'est pas gagné, à mon avis. J'étais beaucoup plus content de voir JBL dans le panel des commentateurs. J'adore JBL.
Bon, papy, du coup, un avis rapide sur ce pré-show que tu n'auras pas vu.
Ouais, vu que c'était dispensable, je m'en suis dispensé, donc je ne regrette pas. Je regrette juste de ne pas avoir vu les tenues assorties, a priori, donc j'ai raté ça me fait un petit pincement au cœur quand même.
Ah, t'auras l'occasion de les retrouver en weekly très bientôt, je pense. Allez, on attaque la carte principale, les gars, quoi. Donc voilà, hein, là ça commençait dans le dur direct, puisqu'on a une défense de titre immédiate, et le pay-per-view débute avec le United States Championship entre Apollo Crews et Bobby Lashley du Hurt Business. Alors, à noter que MVP et Shelton vont être présents aux abords du ring, et on va avoir un match quand même. Alors, je vais pas essayer de trop spoiler, mais un match assez intense, mais j'ai un match de 9 minutes 23, donc intense, mais quand même assez court. Et ça a donné en fait pas mal. Je sais pas ce que vous me direz, ce que vous en avez pensé, mais ça m'a fait penser pas mal déjà aux interactions qu'ils avaient eues ensemble à Raw, je crois, entre autres, pendant un Elimination Match. Et puis bah voilà, là il y a de la viande, il y a du kilo, il y a du muscle, donc ça cogne quand même sévère quoi. Et puis bah finalement, alors il y avait des teams Cruz, il y avait des teams Lashley au niveau des pronos. Allez écouter la review de SmackDown où on avait fait les pronos de Payback. Et bah pour le coup, c'est au bout de ces 9 minutes, ça va être Lashley qui va imposer, qui va remporter pour la seconde fois le United States Championship. Ça fait 14 ans qu'il avait gagné le dernier titre, donc quand même ça fait quelque chose hein. Et voilà, avec un shock slam, il va démolir Apollo Crews définitivement. Il va lui porter le full Nelson et il va le faire abandonner. Juste après le match, ils vont faire la photo. On va faire la photo pour célébrer le nouveau champion US. Et ben finalement, l'ancien champion, le Apollo Crews, il va se rebiffer et il finira quand même en s'attaquant à la bande, au trio. On est en mode trio aujourd'hui. Voilà encore un nouveau trio. Et mais bon, il va quand même être obligé de se barrer sur la rampe, quoi, en disant qu'il reviendra récupérer son bébé. Alors voilà, un nouveau champion, Bobby Lashley. Mon ringside, qu'est-ce que t'as pensé de ces 9 minutes de championnat US en opener?
Alors d'abord, qu'est-ce que c'était que cette histoire des photos à la fin du match là, où ils ont fait une espèce de montage de photos prises en direct avec y a MVP qui va chercher un photographe. Professionnel là qui est sur les abords du ring pour venir prendre la photo, et il y a des espèces de photos qui s'affichent à l'écran comme ça en live.
Ouais, tout à fait, ouais. Ouais, on a fait un espèce de truc, un PowerPoint de photos.
Ouais, c'était zéro pointé. Bon, c'est plutôt sympa que qu'Apollo Crews attaque derrière. On voit qu'il a encore les crocs hein, pour rester champion US. Le match était pas mal du tout. Apollo a été plutôt finalement dominant hein, tout le long du match. Lashley, il est revenu avec des gros coups là, comme il aime bien faire quand il a explosé la tête de quand il prend Apollo Crews sur ses épaules et puis qu'il l'envoie dans le poteau là. C'était toujours assez impressionnant. Apollo il va survivre aussi au Dominator. Lashley il survit au standing moonsault là. C'est voilà des mecs qui survivent au gros coup. C'était très très disputé comme match. Ça s'est joué à pas grand chose cette victoire de Lashley. D'un côté c'est bien pour pas enterrer Apollo. C'est moins bien pour faire de Lashley un monstre. Mais bon, on a la victoire de Lashley, le Hurt Business qui a une ceinture maintenant dans le clan. Une histoire qui n'est pas finie, un Apollo qui continue à se rebiffer. C'était loin d'être mauvais. C'est pas le plus grand match de la soirée, c'est pas le plus grand match de tous les temps, mais c'était ce qu'il pouvait faire de peut-être de mieux. Bon, on espérerait quand même voir Lashley un peu plus dominateur, mais c'était pas trop mal.
Papy ?
Ouais, non, mais moi je trouve que justement, il n'est pas le dominateur Lashley ces temps-ci, parce que. Comme je disais l'autre jour, depuis la défaite contre McIntyre, il a à peu près aligné tout ce qui se présentait face à lui. D'ailleurs, j'étais étonné que Apollo Crews ne soit pas plus soutenu par ses grands copains. Il n'y avait personne pour venir le soutenir, ni pendant le match, ni post-match. Finalement, il s'est retrouvé seul contre les trois. Donc, est-ce que ce sera pas justement... Voilà, mais bon, c'est pas sympa, quoi, les copains. Là. On est solidaires ou on n'est pas solidaires? Mais bon, sinon, Apollo Crews montre très résistant, ouais, j'ai trouvé pendant le match, comme tu le disais, il s'est sorti pas mal de grosses prises et il a bien résisté. C'était un champion valeureux qui a bien défendu sa peau. Et puis, pour moi, c'était l'histoire qui était racontée depuis le début. Hein. Tant qu'il était aux abords du ring, il faisait peur et il semblait indestructible. Et puis, une fois qu'il a commencé un match, il l'a fini, il l'a gagné. Donc, ça devait se finir comme ça pour le pauvre Apollo. Malheureusement, c'était l'histoire qu'on attendait.
Ouais, pas de surprise pour moi non plus. Pareil, hein, de toute façon, je l'avais annoncé. Voilà, je m'attendais à une victoire de Lashley. 9 minutes, ouais, c'était assez intense et c'était plutôt pas mal entre les cordes. Les deux mecs, on voit quand même. Et donc, c'était plutôt sympa. C'est pas une rivalité qui est terminée de toute façon. Donc je pense qu'il va se passer encore des choses. Allez, on va en coulisses parce que backstage, il sera passé pas mal de choses. Ça va être une sorte de fil rouge un peu pendant tout ce payback. Puisqu'on va avoir Kayla Braxton qui va tenter un peu d'interviewer l'avocat, le nouvel avocat même du Big Dog. Et voilà, et elle cherche à avoir des réponses à ses questions dans un chien. C'est ça, le journalisme de pointe. Voilà, elle lui dit qu'il a disparu depuis longtemps, qu'il réapparaît aux côtés de Reigns. Eman, il se marre, il lui dit qu'elle en fait des tonnes, qu'elle invente. Et en plus, et d'ailleurs, il a le nez creux celui-là, puisqu'il lui demande, bah tiens, mais Charlie Caruso, elle n'est pas disponible ce soir, c'est vous qui êtes obligé de bosser là. Et puis finalement, bah, Kala, elle pose quand même la question qui tue, c'est qu'elle demande, est-ce que Roman Reigns a finalement signé le fameux contrat? Et Eman nous dit que bah il va le faire, qu'il doit encore en discuter, que c'est pas encore bien clair tout ça. Et voilà, donc un doute continue à planer sur le fait que est-ce que Roman Reigns va bien participer au match ce soir, puisqu'il n'a toujours pas signé le contrat. Voilà. Derrière, on va avoir toujours dans les vestiaires, ça continue dans les vestiaires avant le prochain match, on va avoir Kisly qui va être rejoint par JBL, mon bon ringside.
Ah voilà.
Kisly, il est impressionné hein, d'ailleurs hein, de voir le big businessman là, débarquer le voir là. Et en fait, JBL, il va venir lui proposer ses services. Parce que c'est un investisseur, hein, le JBL, hein, faut pas déconner. Hein, chapeau de cowboy et tout ce qui va bien, Cadillac et tout, et le tutti quanti. Et Lee lui dit non, mais c'est bon, j'ai pas besoin de thunes, tout va bien. Et JBL, bah, un peu dans son rôle de heel, hein, il va lui dire que bon, bah, il faudra pas qu'il se sente trop mal s'il perd son premier match dans le roster principal. Ça arrive à tous. Et puis aujourd'hui, il affronte l'un des meilleurs de sa génération. Quoi. Donc voilà. Donc un petit mot sur les coulisses, les gars, là, de ce qui se passait en coulisses.
Bah, je pense qu'Eman a effectivement la bonne réflexion de dire où est Charlie. C'est ce qu'on se pose, souvent. Où est donc passé Charlie et pourquoi on a Kayla à la place.
Ça c'est pas cool. Hein. Et moi je trouve que JBL il ressemble de plus en plus à Vince McMahon et je me demande si c'est pas le fils caché de Vince McMahon, le petit bâtard de la.
Ce serait lui.
Mmh. Ah, mais c'est donc lui alors.
Parce que ça expliquerait pourquoi il est aussi bien positionné. Dans les coulisses, dans le roster de la WWE, pourquoi il a une telle carrière et pourquoi Vince McMahon l'apprécie tant. Je suis sûr que c'est son fils caché.
D'accord. Mais bah, écoute, on verra si ta prédiction est un spoiler. Mmh. Allez, on passe au troisième match de la soirée qui va nous voir avec Sheamus qui rencontre Big E. Alors, Big E qui avait déjà battu Sheamus un peu avant SummerSlam. Et donc là, on a un match, encore une fois, j'ai envie de dire, un match avec de la bonne viandasse, hein, parce que après Apollo Crews, Bobby Lashley, on enchaîne avec un Sheamus Big E. Donc là, il y a du gras dans l'entrecôte, les amis. Alors, je suis toujours étonné, vous me direz ce que vous en pensez, mais de cette entrée de Big E, qui est toujours finalement sur le thème du New Day, il n'y a pas beaucoup de changements là-dessus. On va avoir un match un peu plus long que ce qu'on a eu un peu à SmackDown la dernière fois, puisque là, on va avoir un match de 12 minutes 17. Big E va nous sortir comme arsenal absolu dont il usite habituellement. En l'occurrence, le spear à travers les corps, toujours bien spectaculaire. Le Sheamus est toujours bien stylé, bien affûté. Hein. Moi, le Sheamus, le gars, il vieillit et je trouve que le temps n'a pas de prise sur lui. Quoi. Voilà, quoi. Il reste toujours taillé dans la roche. Et voilà, le Big E va même nous contrer un broadkick en powerbomb de manière très jolie. Et il va finir, au bout de ses 12 minutes 17 de combat, avec un big ending. Et il va remporter le match, Big E, je crois, à la surprise générale d'à peu près personne, puisque je crois que chez le peuple de Ketchup, il n'y avait qu'une seule personne qui avait donné Sheamus vainqueur. Et voilà, Big E descendra après derrière au niveau des commentateurs. Et ira voir Corey Graves pour lui montrer que voilà quoi, il peut faire face aux critiques et que ce soir il a montré ce qu'il valait. Alors là, Big E, ça roule les épaules, ça remue les pectoraux. Qu'est-ce que t'en penses, papy, là, du Big E?
Bah ouais, moi je pense que justement il garde son entrée pour rester en son personnage de dire malgré les critiques, vous avez beau dire que je suis pas un mec sérieux, bah en gardant ma personnalité, j'arrive quand même à m'imposer et à mettre des poings dans la gueule et des pieds dans le bide et où vous voulez.
Et face à un poids lourd du roster, un grand slam champion, là, gros test en pay-per-view pour Piggy quand même.
Bah et voilà, et donc il continue sur sa lancée à se montrer vraiment très fort, à être la mini fusée au cul. Donc, je suis très content pour lui. Puis encore une fois, comme tu le dis, dans le ring, c'est globalement impeccable. Je n'ai pas souvenir qu'il y ait un seul truc qui soit à peu près réalisé. Et puis voilà, quoi, 12 minutes, bah, c'est très bien. Ça poursuit sa progression. Moi, je vais bientôt créer ma pancarte Big E Top Face de SmackDown parce que j'en suis de plus en plus persuadé.
Ringside, toi, pour toi, Big E, entrée fracassante en solo, là
avec cette... il a fait le job. Hein. Il a fait le job. Effectivement, il a la volonté de conserver le gimmick du New Day, la même musique. la même entrée. C'est ce qu'il a dit, hein. Il veut rester dans cette tradition-là. Il est sûr de lui, il est sûr que ça va fonctionner. Moi, je ne serais pas contre un changement d'outfit quand même. J'aimerais bien le voir torse-poil se battre, hein, parce que la grenouillère, ça ne fait pas très sérieux. Maintenant, voilà, il a la volonté de rester dans ce personnage-là jusqu'au bout. Là, le match, il est impeccable, hein, je pense. Il y a travail de Sheamus sur la jambe de Biggie pendant tout le match. Et puis finalement, démonstration de force du gentil, du babyface, là, qui réussit à surpasser l'obstacle qui est quand même pas négligeable. Hein. Sheamus, il a tout gagné déjà à la WWE.
Ah ouais, non.
Gagné en Royal Rumble, moi, Money in the Bank, tout ça, il a déjà tout gagné. Hein. Donc voilà, c'est une première étape vers une carrière solo qu'on espère fructifiante, j'ai envie de dire. Voilà, alors fin de match, Sheamus un peu lessivé au bord du ring, ce regard un peu perdu, un peu très très déçu. Est-ce qu'on s'en va pas vers une fin de carrière de Sheamus? Il avait la gueule un peu du pré-retraité, mais bon, à voir. Alors moi j'ai mis la caméra qui s'est attardée sur lui comme ça. Il avait je pensais qu'il allait prendre le micro après pour dire I quit ou un truc comme ça. Mais on verra bien.
Il va se venger à SmackDown, je pense, peut-être. Parce que après Sheamus, c'est plus grand chose dessus, en fait. Donc,
C'est ça.
Mais après, à part qu'il aille vers les titres, hein, Biggie. Hein. Ça sera l'Intercontinental ou le Universal. Mais là, à un moment, Biggie, s'ils lui mettent une fusée au cul comme ils font en ce moment, j'imagine que c'est quand même pour balancer dans la title picture d'un des deux titres. Quoi.
Ouais. Après, on n'est pas à l'abri d'un check-up aussi. Mais,
On n'est pas à l'abri non plus, ouais, c'est vrai aussi, ouais. Je crois en octobre.
Il arrive. Mettre fin à ces rivalités qui tirent un petit peu en longueur. Mais c'est pas impossible qu'on ait effectivement des rematchs encore de payback dans les semaines qui viennent pour occuper un petit peu le temps jusqu'au check.
Ouais, il m'a bien semblé voir passer un draft durant l'automne là, de toute manière. Donc, on verra.
De toute façon, c'est pour la rentrée des programmes en fait qui lance ça. Donc.
Ok, donc pour tous nos amis pronostiqueurs de catch-up, quoi, les Zygot, Bébé Élu, Darryl Week et compagnie, c'est bien Biggie qui remporte la victoire. Allez, on retourne backstage, les amis. Alice Ashton, vous connaissiez Alice Ashton, les gars?
Non, mais elle est très jolie.
Bon, vous la connaissiez pas? Moi non plus. Voilà, elle est avec Matt Riddle. Il va y avoir une petite promo du bro. Voilà, il semble pas super inquiet. Il déroule un peu son truc, et puis voilà, après il va juste à. Une petite réaction sur un tweet de King Corbin, et puis de son échec, qu'il a déjà montré qu'il est un échec personnel, mais c'est pas grave, Riddle, il s'en va, tel un prince, bon, un peu vénère quand même. Dans le même truc, derrière, on aura Nia Jax et Shayna Baszler qui sont en train de se préparer à leur match. Nia Jax, elle lui dit qu'il faut suivre sa stratégie, alors bon, moi je suis Shayna Baszler, en fait, je réagis un peu comme elle, parce que Shayna, elle pense plutôt l'inverse, en fait. Donc la tension, ça monte un peu, ça se retient un peu de se battre. Et puis, ils se disent que finalement, on va se garder pour le match quand même. Quoi. Donc, ça va arriver, ça. Allez, voilà, il est temps de payer la dette au roi. Il est temps de venir au single match qui concerne King Corbin et Matt Riddle. Je sens que vous frétillez d'impatience, tous les deux, là.
Ouh là là.
11 minutes. Ça a été 11 minutes. 11 minutes, ça vous va comme timing?
Trop long.
Bon, alors King Corbin, il aura deux. Partagé.
Ouais, j'ai pas trouvé ça trop long, moi, mais.
D'accord. Ouais, ça reste 10 minutes, hein, sur un pay-per-view, finalement, c'est pas grand-chose. Hein. Pour un combat de mid-card, low-card, je crois que Papy pourra le en dire tout autant. Au final, ils ont pas eu grand-chose et c'était pas extraordinaire, c'est clair, ça aura pas fait beaucoup rêver. Le King Corbin, il nous sort son moveset habituel, hein, donc de toute façon, on sait tous ce qu'il en est, et on aime, on n'aime pas. Bon, je crois que à Team Catch-Up, globalement, on fait partie de ceux qui n'aiment pas. Donc, finalement, ça va s'enchaîner avec un Brutus Slip que moi, je n'ai pas trouvé terrible, mais encore une fois, je pense pas très, très bien vendu par notre ami Corbin sur ce coup-là. Un Moonsault du coin, bim, bam, boum, hop, et Riddle, il barre. Ça durera pas trop parce que le roi, il va profiter après qu'il y ait une interview de Matt Riddle en coulisses pour l'attaquer. À nouveau, il faudra l'intervention des arbitres et puis d'un autre officiel pour faire cesser le truc. Alors, Inside, ce Corbin Riddle, là, ce match de mid-card.
Ouais, non, moi, ça va. J'ai trouvé qu'ils avaient fait le boulot, encore une fois. Corbin, autant je peux pas le blairer en weekly, autant généralement quand on arrive au pay-per-view, il fait le taf. Là, c'était encore le cas. Je trouve que ça a été bien mené, ça a pas botché. Il a laissé dérouler Riddle comme il fallait, il lui en a mis plein la gueule. C'était assez stiff au début, j'ai bien aimé qu'il l'attaque tout de suite.
Coup de la corde, oui, ça c'était pas mal, ouais.
La tête, après des bonnes patates dans la gueule sur la table des commentateurs là. C'était plutôt crédible. Il y avait un bon challenge pour Matt Riddle et puis voilà, pareil, il a réussi à surclasser le méchant. C'est classique, mais c'est relativement efficace. J'ai pensé quand j'ai vu arriver le trône, parce qu'il y avait une grosse caisse en dessous du trône là. Je pensais qu'il y avait Shorty G caché dedans, mais au final pas du tout. J'étais un petit peu déçu, mais sinon dans l'ensemble, je trouve que c'était un match honnête. Voilà, une belle victoire pour Matt Riddle, qui va encore devoir continuer à faire avec Baron Corbin, je pense, pour les semaines qui viennent, parce que Monsieur Corbin est un mauvais perdant. Alors par contre, ça c'est un booking de merde, parce que une fois
de ton ami Corbin, fais-toi plaisir.
Ouais, le là c'est quand même stupide parce que c'est le babyface qui a gagné. Il y a plus rien à raconter derrière normalement. C'est soit il aurait perdu sur une tricherie ou un truc comme ça pour aller rechercher une victoire derrière, mais là l'histoire théoriquement elle est finie. Donc là on est pile poil dans l'exemple des scénarios de la WWE qui sont à rallonge inutilement. Et ça va nous gaver, je pense, dans les semaines qui viennent.
Comme souvent. Je suis
tout à fait d'accord avec toi, Ringside. Il aurait dû perdre l'ami Matt Riddle. Et comme ça, j'aurais mon prono qui était bon. Exactement. Et ça aurait été parfait. Bah oui, parce que moi, je m'en doutais qu'ils allaient prolonger le truc. Parce que Riddle, je ne le vois pas aller faire autre chose pour l'instant. Et du coup, bah, effectivement, il est en faute d'apprentissage, on va dire, avec Corbin. Alors, peut-être pas en in-ring, parce que Corbin... c'est pas vraiment lui qui veut lui apprendre grand chose, mais au moins apprentissage de l'environnement SmackDown, des nouveaux spotlights dans le main roster par rapport à NXT. Et donc, bah ouais,
ça m'a fait sortir quand on est mauvais.
Voilà, exactement. Non, mais moi, ça me faisait pas rêver comme match et il m'a pas fait rêver du tout. Effectivement, vu qu'il y a eu aucune surprise, il n'y a pas eu de Shorty G, il n'y a eu pas une intervention ni rien. Hormis la petite attaque, effectivement, de Corbin au tout début du match. Le finisher en plus de Matt Riddle, c'est un espèce de moonsault, c'est pas son vrai finisher en plus, enfin, j'ai pas l'impression qu'il finisse comme ça, et je l'ai trouvé tout moche en plus, parce qu'il le fait à moitié sur le côté, là, donc c'est pas terrible, donc voilà, bon, pas terrible, effectivement, c'est de la low card, il faut qu'il passe par là pour construire le petit nouveau Matt Riddle, enfin, ça m'aura pas déplu que ce soit un peu chaud, ce match-là, comme ça, je l'aurais évité, mais bon, voilà. Mais ouais, 11 minutes, c'est long. Franchement, j'aurais pas fait qu'il fasse 7 minutes et qu'il refile 4 minutes au premier match, au Cruz versus Lashley. J'aurais préféré dans ce sens-là.
Ah ouais, je suis assez d'accord avec ça, moi aussi. J'aurais bien écourté un peu ce match-là, pour le coup, et j'aurais donné quelques minutes supplémentaires aux deux BMOD de l'opener ou quelque chose comme ça. Ouais, voilà, ouais. Pour moi, voilà, c'était de la low mid-card, c'était très moyen. Je suis pas super convaincu par Riddle sur ce match, mais parce que je pense que là, il avait pas un bon adversaire pour le selling. Et voilà, pour moi, pas de surprise. J'étais quasiment convaincu vraiment que Matt Riddle allait gagner. Donc voilà, quoi. Rien d'extraordinaire. Allez, on quitte la mid-card, hein, on quitte les mecs et on va chez les nanas. Et on va voir le WWE Women's Tag Team Championship. Entre Shayna Baszler, Nia Jax, les contenders face aux championnes, les role models. Alors, dans une feu d'à rallonge, je ne sais pas, est-ce que l'un de vous sait depuis combien de temps les role models détiennent le titre par équipe? Mais là, ça fait un bail maintenant, je crois, quand même. Hein. Et elles tiennent bien l'or, hein, les deux filles, quoi. Et on va avoir une alliance de fortune entre Jax et Baszler qui s'est formée vraiment là sur les deux, les trois dernières semaines, on va dire, aller au max. On va avoir un match finalement moins long que le Riddle King Corbin qui avait 10 minutes 57, alors que derrière, on va avoir un 10 minutes 7 entre Nia Jax et Shayna Baszler. Ça peut se comprendre au vu des gabarits du côté des challengeuses, parce qu'elles ont besoin que ça cogne, que ça strike, et qu'il faut essayer d'envoyer vite au tapis, donc ça peut raccourcir les combats. Voilà, et ben finalement, les deux Jax et Baszler, elles vont s'entendre suffisamment hein, pour pouvoir contrer Banks et Bayley. Shayna Baszler, elle va réussir à coller un Boston Crab sur Sasha Banks, et un Kiri Fuda Clutch sur Bayley. Alors là, la double prise de soumission. Bon, on en reparlera parce que j'ai des choses à dire là-dessus. et voilà, et elle va bloquer, après elle va bloquer le bras de la bosse et elle va faire comme ça, voilà, en bloquant en fait par-dessus, en passant son bras et en étranglant Bayley avec le bras de Sasha Banks, et ben elle va faire abandonner la championne de SmackDown. On a deux nouvelles championnes pour le titre par équipe. Il y a Kayla Braxton qui est dans le coin, qui bosse ce soir et qui donc monte sur le ring pour interviewer les deux, mais Nia Jax, elle est en mode folle, quoi, en mode folle furieuse même. Ouais. Vraiment heureuse de retrouver un titre, hein. Ça fait 2 ans qu'elle n'avait pas touché d'or. Et Shayna, elle abandonne carrément l'interview, quoi. Donc en mode à peu près rien à foutre. Voilà. Donc ringside, ce match par équipe féminin là.
Ah moi c'était que du bonheur. Hein. Je trouve que Bayley, Sasha marche sur l'eau en ce moment. C'est tout ce qu'elles font, c'est une réussite. Et encore une fois là, je trouve que ça a fonctionné du feu de Dieu. C'était super sympa de les voir affronter un peu Shayna Baszler et Nia Jax. C'est des trucs qu'on n'a pas vu depuis longtemps, hein, parce qu'on a généralement on voit à peu près tous les matchs, les mêmes matchs toutes les semaines. Hein, elles affrontaient Asuka ou je sais plus qui c'est qui était là.
Ou Asuka.
Ou Asuka, voilà. Hein, je crois que c'était que ça pendant 6 mois. Donc là, voilà, ça varie un peu. Deux gros grabaris. La Nia Jax, c'est un peu comme Corbin. Hein, elle me saoule dans les weekly, mais à chaque fois que c'est lors des pay-per-view, elle fait le spectacle comme il faut. Là c'était encore le cas. Shayna Baszler qui a enfin un peu remontré de quoi elle était capable. Je la soupçonne de pas savoir se jeter dans les cordes par contre, Shayna Baszler, mais je vérifierai ça au fur et à mesure des semaines qui viennent. En tout cas ça, je trouve que ça a super bien fonctionné. Il y avait cette domination de Sasha et Bayley en début de match, elles avaient l'air de tout maîtriser, puis finalement ça a basculé et victoire. Coup de poing sur la table de Shayna Baszler là, avec cette double prise de soumission. Je ne suis jamais trop client de ce genre de truc. Mais bon, là, on va dire que ça fonctionne. Ça permet de faire fonctionner la suite de l'histoire, hein, pour la séparation prévue quand même. Et le clash entre Sasha et Bayley. Voilà, non, moi, je suis complètement rassasié par ce match. J'ai trouvé ça excellent.
Papy ?
Ouais, non, mais c'est... Je réfléchissais en même temps que tu parlais sur le finish, effectivement. Il est un peu surprenant le fait que finalement elle arrive à maîtriser les deux à elle toute seule. Mais en même temps, pour moi, ça fait un petit peu écho au fait que ce soit la première à se sortir d'une Elimination Chamber en éliminant les 5 autres. Mm. Donc je me dis quelque part, ça marche, ça peut marcher parce que c'est Shayna Baszler qui a déjà montré qu'elle était capable de faire des trucs de fou en termes de combat, quoi. Donc là, elle attrape les deux, elle s'en sort d'une pour étrangler l'autre. Pourquoi pas, à la limite je peux l'acheter, raconter comme ça. Et sinon ouais, je suis comme toi, un plus bon match. Il a duré un peu moins longtemps que le précédent, mais ils ont raconté 100 fois plus de choses dans le match.
Ouais.
C'était ouais, de bout en bout tu regardes ça et moi j'en lâche pas une miette. La dynamique de Shayna et Nia Jax, on n'y croyait pas trop, je pense qu'on est tous votés pour les deux autres, mais finalement elle s'est montrée, et puis elles ont finalement une espèce de petite dynamique comique avec Nia Jax, c'est un peu la fille qui a envie de baffer, qui parle tout le temps et qui dit que des conneries. Elle arrive avec son t-shirt Tamina en plus, putain, mais est-ce que c'est horreur, quoi. Et puis du coup, Baszler qui dit 3 mots, puis qui passe son temps à la casser, à la regarder avec un petit air de méprisant. Donc finalement, je trouve que ils ont trouvé leur dynamique à L2, donc ouais, c'était plus satisfait de cette rencontre.
Ok, moi déjà j'avais tort, hein, puisque moi j'avais donné Bayley et Banks vainqueurs. Hein, donc voilà, déjà dans l'os, c'est Baszler et Jax qui gagnent. Et j'ai trouvé globalement le match pas mal. Après, moi j'ai eu du mal avec ma suspension d'incrédulité sur la soumission sur les deux. Surtout en fait, pour le départ du Boston Crab, parce que Sasha Banks, en fait, elle a les bras complètement libres. Elle peut faire absolument ce qu'elle veut. Et elle reste pendant des secondes et des secondes et des secondes et des secondes à faire « Ah, je souffre, mais meuf, t'as tes deux bras là, qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends pour faire quelque chose ?» J'ai eu du mal, quoi. C'est pas passé. Et puis j'étais un peu limite gêné par la célébration en particulier de Nia Jax. j'ai eu un effet, moi, je vous cache pas que j'ai eu un moment de gênance en fait. Voilà, quoi, il y a un truc comme ça, ça passe pas, des fois, tu sais pas pourquoi, ça te fait des espèces de poils sur les bras, là, je sais pas, c'était pas terrible, ça.
c'est le dynamique des clowns, t'as un clown qui est très expressif, un clown blanc, là, qui passe son temps à être le visage de marbre, et puis jusqu'à casser l'autre clown, quoi. Et donc, c'est a pris le rôle du clown qui est très expressif. Bon, je trouve qu'au contraire, ça leur donne une meilleure dynamique aux deux.
Ouais, ça peut aller très loin, comme ça peut se viander, parce que Nia Jax, effectivement, c'est assez délicat hein, quand elle commence à danser, qu'elle fait la gagate comme ça. Mais c'était un peu comme ça avec Bayley au début, quand elle jouait la méchante et tout ça. Donc, faut laisser le temps, voir si elle arrive vraiment à gripper un personnage qui va fonctionner. C'est pas gagné, mais c'est faisable.
Délicat, c'est le mot bonbon ringside, délicat, voilà. Alors on va passer à quelque chose de beaucoup moins délicat, on va retourner vers les hommes, et on va retourner, j'ai envie de dire, vers un match encore de heavyweight, quoi, parce que là, ça va pas déconner, parce que à ma gauche, on a un certain monsieur qui scie d'1m88 et de 155 kilos, hein, ok, et de l'autre côté, à ma droite, on a un certain Randy Orton, à soi champion du monde, qui fait 1m93 et 114 kilos. Je pense que ça vous va?
Oui.
Ok, vous êtes bien servi là, je vous en remets un petit peu quand même.
On prend.
Voilà, alors on va prendre, mais on va peut-être pas prendre autant que ce que peut-être beaucoup pensaient, puisque on va avoir un match de 6 minutes. Ça va vraiment être envoyé. Je pensais, moi j'étais parti pour un long match en fait dans mon esprit, parce que je pensais qu'un Randy Orton, voilà quoi, avec toute sa méthode. Il allait essayer de crever le gros behemoth de 155 kilos là. Et finalement, en 6 minutes, quoi, une victoire surprise et clean, quoi, avec un Kissy qui bat propre. Il contre un RKO, il va placer une putain de powerbomb de fou. Et 1, et 2, et 3, victoire de Kissy. Alors, papy. Après tout ce qu'on a commenté ensemble là, avec le main event de NXT, le SummerSlam et tout ça, et là on se retrouve avec l'arrivée de Kissy et tout ça, et là bim, on le retrouve face à Randy Orton en pay-per-view. Comment t'as encaissé ce truc là?
C'est la surprise. On parlait de fusée tout à l'heure pour Biggie là, Kissy là, je sais pas, il a 30 fusées là, directement au fond du fondement. Puis, hop, je vais te chercher le 13 fois champion du monde, je te l'éclate comme une pauvre merde là. Bam!
Il a un petit peu changé de look. Il a un petit peu, il avait remis son short un peu classique là.
Ouais, c'est vrai. Il a petit peu remis son petit short, mais surtout il l'a monté à 4 mètres de haut, le pauvre Orton. Il devait avoir des bouts de nuages qui devaient traîner sur le sommet de son crâne. Et blaah, il t'éclate en plein milieu du ring. C'est ce qu'il faut, je pense, de temps en temps pour t'établir un mec qui vient d'un autre roster, de dire c'est pas un tocard, il te prend un multiple champion du monde, un des plus gros, un mec qui a des meilleurs catchers au monde, parce que il a battu Edge, il a tout misé à peu près tout le monde, il a perdu sur une roublardise face à Drew McIntyre et pas forcément sur un KO, et là il se fait exploser au sol comme un vieux moustique là. Dégage du sang partout, des paillots qui éclatent dans le ring. Mais voilà, c'est Kissy, voilà. Nous vous présentons Kissy, la brutasse.
Inside?
Ouais, Randy Orton explosé comme le premier Drew Gulak venu. J'étais sur le cul. Voilà, victoire express de Kissy, net, sans bavure. Et effectivement, il est super impressionnant là.
Ouais.
Je te prends comme un petit gamin là. Je t'envoie voler, je t'écrase par terre. Inattaquable, c'est pas le babyface débile qui va se laisser piéger, c'est le monstre qui t'expose à Randy Orton comme ça dès qu'il arrive. Alors, du coup, je suis un peu perplexe sur toute cette construction de Randy Orton là sur les dernières semaines où il était carrément construit pour devenir le nouveau champion, et puis finalement rien du tout. Il sert de marchepied à McIntyre puis à Kifli maintenant. C'est surprenant. C'est ce qu'on aime bien à la WWE. Donc voilà, mais maintenant on va faire avec Kifli. Moi j'avais trouvé qu'à NXT, quand il était champion, la plupart de ses matchs c'était un peu des contre-performances parce que c'était super pas crédible de le voir malmené par un Johnny Gargano qui fait 1m20
Il a affronté que des nains.
Ouais, voilà, c'était absolument pas crédible. Donc je pense qu'ils s'en sont rendus compte assez rapidement et qu'ils ont dit ben maintenant lui sa place c'est dans le main roster, de toute façon ça sert à rien de le faire affronter des petits gabarits comme ça. Et puis ça avait tellement bien fonctionné quand il était venu à la fois au Rumble je crois et puis à Survivor Series, je crois que là on est parti pour un mec qui va avoir une place importante dans le roster, surtout qu'il sait manier le micro, il a déjà son personnage en main, ça peut aller très très loin et c'est plutôt bien parti là ce soir avec ce match, ce squash quasiment surprenant.
Comme tu l'as justement souligné, ouais, bah Orton, effectivement, il met en avant les mecs, quoi. Hein, là, hein, il a fait grossir encore plus l'aura du bel homme ces derniers temps. Là, maintenant, c'est avec Kisly. Ah, franchement, ouais, moi aussi, hein, je suis assez surpris hein, de ça. Hein, voilà, c'est Randy Orton qui vient de jobber, c'est le mec 13 fois champion du monde. C'est vachement surprenant. Et là, vraiment, j'ai été d'autant plus surpris par justement la rapidité de ce match où Orton a vraiment peu existé, quoi. Il a réussi à placer son DDT. Voilà, il a placé ses mouvements habituels qu'on voit tout le temps, parce que ça, sur 5 minutes, il a le temps de les placer, ses 3-4 moves fétiches. Mais finalement, il a été dominé la plupart du temps. L'autre l'a envoyé sur les ATMI, surtout. On sentait qu'il était dominateur, le Kisly. Il nous est présenté vraiment fort. Et avec un Randy Orton qui vend vraiment bien, et bah, du coup, ça donne même 6 minutes. Du coup, ça a donné un bon truc, parce que j'étais pas déçu à la fin du temps. J'étais même presque sûr. Moi, j'avais pronostiqué la victoire de Kisly. Mais j'étais presque surpris en fait de le voir gagner comme ça, quoi, de cette manière-là. Donc, ouais. Donc c'était plutôt pas mal finalement d'avoir une surprise sur ce dénouement entre ces deux heavyweights, quoi.
Ouais, et voilà. le souffle coupé, en fait, je me dis, tu vois, au recul, après SummerSlam, je me demandais pourquoi ils avaient fait un finish tout pourri ce que je trouvais en tout cas tout pourri entre McIntyre et Orton. Bah, en fait, c'est parce que certainement déjà dans leur tête, ils disaient bah la grosse défaite d'Orton finalement eux la filent à McIntyre, on va la filer pour Kisly qui va être du coup maintenant il se positionne tout en haut et puis bah il n'y a plus que lui et Drew McIntyre je pense hein. Je sais plus qui d'autre peut aller les chercher hein.
Exactement. Ah bah, là ouais là de toute façon ouais là dans le main event de toute manière là Kisly s'il s'installe comme ça oui alors après il va y avoir un petit problème d'alignement parce que là les deux sont vraiment des top baby face tous les deux quoi.
Ouais, je pense que ça va pas durer longtemps le problème d'alignement. Il y en a un des deux, à mon avis.
Oui, surtout qu'ils se présentent comme deux super potes et tout. Donc,
Le turn de Kisly, à mon avis, va être assez rapide.
Je suis d'accord avec toi.
Sauf s'il draft, parce que ce que la Fox.
Ah oui, c'est vrai, la draft.
La Fox obtient. Donc, si jamais Kisly il tape dans l'œil de la Fox, je peux vous dire que les cocos, à l'automne, Kisly direction SmackDown. Hein. Parce qu'en ce moment, c'est un peu ça, hein, le truc. Hein. Si tu plais à la Fox, tu débarques le vendredi, quoi.
On verra bien, mais moi je serais pas étonné qu'il fasse style compétition entre grands potes, et puis que finalement, je suis pas tant grand pote que ça. Et d'ailleurs, j'ai plein de gars cagoulés qui sont pas loin, qui sont avec moi. Et puis bam, dans ta tronche, gros.
On en reparlera, tiens, les gars cagoulés là, qui pour l'instant brillent par leur absence. Vous l'aurez remarqué. Allez, on enchaîne un peu le pay-per-view parce que c'était quand même assez dense, hein, il y avait pas mal de matchs et tout ça, quoi. On va avoir le fil rouge, voilà, toujours avec Paul Heyman, puisqu'il y a Kella Braxton qui est toujours en train de cavaler après pour essayer de savoir, voilà, est-ce qu'enfin il a signé le contrat, quoi, le gros chien, quoi. Et voilà, Heyman, il nous assure juste que de toute façon, Roman Reigns, il est là, il va participer au Triple Threat match ce soir, il va péter des bouches, et puis il va emporter le Universal Championship et il va se barrer. Voilà, c'est assez clair, c'est assez simple. Là-dessus, on enchaîne avec un tag team match masculin, le premier de la soirée. Il n'y a pas eu d'autres matchs, ni pour les ceintures de Raw, ni pour les ceintures de SmackDown. On va avoir un match entre Los Mysterios face à Seth Rollins et Murphy. Alors, Dominique a enlevé sa capuche. Dominique, écoute son papa. Dominique, écoute son tonton. Et ça, c'est une bonne nouvelle, les gars.
Oui, on n'a pas idée de catch avec une capuche, franchement.
Mais ouais. Depuis le début. Alors là, on va vraiment avoir le match familial. Alors moi, j'ai bien aimé, je le dis d'entrée, les tenues de Murphy. Enfin, en fait, les tenues des quatre. Et j'ai bien aimé que les tenues de Murphy et Rollins soient bien raccord et tout. Je trouvais que ça donnait un effet visuel vachement sympa. Les tenues, pareil, entre le père et le fils, c'était cool. Alors bon, moi, de toute façon, je vais dire que du bien quasiment de ce truc parce que j'ai trouvé ça génial. Je réfléchissais pendant le combat en me disant, mais dans quelle discipline sportive, artistique, etc., à part le cirque, effectivement, On peut voir un père et un fils travailler ensemble. Voilà, c'est moi, du coup, je suis un peu ébahi par tout ça. Et donc, on a eu droit à un gros match, parce qu'après le match de SummerSlam entre Dominik et Rollins, où on va rappeler que le Messi a gagné le match de SummerSlam. Là, cette fois, ce n'était pas la même limonade, parce que c'était en tag team. Donc, du coup, ça va envoyer du bois entre les quatre. Ça va partir un peu dans tous les sens, ringside. Il va y avoir pas mal de moves spectaculaires. Il va y avoir un Rey Mysterio en particulier qui va contrer un buckle bomb de Seth Rollins avec un Hurricane Rana où il va venir s'empaler dans le kick de Murphy. Ça, c'est la fin de match, en fait. Dominik, il va en profiter pour jeter papa, comme ça, voilà, sur le Messi en dehors du ring. Et il va terminer le match avec un 619 suivi d'un Frog Splash Special pour Eddie Guerrero. Bataille remportée contre Rollins et Murphy dans un match de 16 minutes, voilà, en avant-dernier match du pay-per-view. Victoire, vengeance, quelque part, on va dire, de Dominik face à Rollins. Alors, les gars, qu'est-ce que vous pensez de ce tag team match-là? Qu'est-ce que vous pensez de la continuité de cette rivalité? Et puis, voilà, est-ce que le jeune qui avait réussi son baptême du feu en solo a prouvé qu'il avait les épaules pour continuer en tag team comme ça, quoi? Papy.
Bah ouais, moi il continue. Alors là, c'est facile. Bah, c'est facile. Il a quand même son père là qui lui tient la main pendant tout le match. Je pense que ça a vachement l'aider. D'ailleurs, Rey Mysterio, il est bien plus motivé depuis qu'il y a son fils qui a une possibilité de percer dans le noblard. Que j'ai l'impression qu'il fait des grosses performances in ring. Et puis voilà, donc Murphy aussi qui fait bien le taf parce que sur le 619, il te fait un bond de 4 mètres quand il se prend les pieds dans la tronche. Donc ils ont tous, en gros en ce moment ils travaillent tous pour Dominik et bah, comme Dominik lui il fait sa partition plutôt proprement et plutôt bien, bah ça fait des choses agréables à voir, des bons déroulements. Donc voilà, c'est dans la continuité du match précédent. C'est il va falloir tôt ou tard qu'il passe à l'étape supérieure, mais pour l'instant c'est plaisant.
Ringside, tu crois que le Messi va passer sa colère sur Murphy dans le Raw du lendemain?
Alors je suis curieux de voir ça, ouais. Effectivement, est-ce qu'on va arriver au clash Murphy-Seth Rollins? Je ne sais pas. Le reste m'intéresse moyennement. Hein. Dominik Mysterio, il ne m'intéresse pas plus que ça. J'ai trouvé, par contre, Herré complètement incroyable, encore une fois. À un moment donné, il saute par-dessus Seth Rollins, comme ça, mais sans élan, et il saute au moins à 2 mètres, 2 mètres et demi. Ce bon vieux Réré, là.
Il est dans une condition physique éblouissante.
Ça parle de retraite, des fois, mais je pense qu'il est là encore pour un bon moment, hein, vu ce qu'il arrive à sortir encore, là, quand il fait ses slides à l'extérieur du ring, là, pour arriver sur les genoux, là, pour le coup de Murphy. Il n'y a personne qui le fait, à part lui, ces trucs-là. Hein, donc, il est encore à un niveau extrême, et je pense qu'un jour, il va falloir quand même établir clairement que c'est un des plus grands catcheurs de l'histoire, Rey Mysterio.
Ah mais alors là, tu prêches un converti, hein, parce que c'est certainement pas moi qui vais te contredire, mon ringside. Hein. Pour moi, il est clairement dans le top. Voilà, je sais pas si on faisait un top 10, top 20. Voilà. De toute façon, Rey Mysterio restera avec El Santo, ça restera les deux plus grands catcheurs latino de l'histoire, de toute manière. Et sur l'époque moderne, moi, je vois que Rey, quoi.
Ouais, carrément. Voilà, donc c'est encore là, c'est difficile pour le petit Dominik de faire un mauvais match quand t'es dans le ring, t'as Seth Rollins, Rey Mysterio et Murphy, hein, c'est quand même trois cadors là, hein, qui sont dans le ring, donc voilà, bah, ils bossent pour lui, bah, on espère que derrière ça aboutira à quelque chose, mais moi comme ça je vois rien de spécial à ce Dominik Mysterio là. Donc j'ai passé un bon moment, mais je vois pas trop de finalité. Je sais pas où ça va nous mener. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut faire avec Dominik Mysterio, mais l'avenir nous le dira.
Maintenant, c'est un petit passage en tag team peut-être. On peut peut-être continuer la tag team. C'est l'occasion justement pour lui de progresser et toujours en ayant son père à côté pour l'aider.
Ouais. Après, c'est vrai que Cody Rhodes, quand il a commencé, c'était un peu comme ça aussi. Donc voilà, faut pas tirer des conclusions trop hâtivement, mais il a une drôle de situation, je trouve, dans le roster, Dominik Mysterio, parce qu'il passe devant pas mal de monde, mine de rien. Hein. Je pense que tous les petits gaillards qui étaient derrière le plexiglas avaient encouragé quand on était encore au Performance Center. Là, ils doivent l'avoir mauvaise quand même de voir le petit gars passer devant. Mais bon, dans l'ensemble, tout ça a été bien fait. Hein. Il n'y a rien à dire. Il n'a même pas botché, hein, le petit Dominique. Donc, tout ça a été plutôt pas mal. Puis l'histoire rebondit, parce que visiblement, Seth Rollins n'est pas content. La défaite, c'est Murphy qui l'encaisse. Et si on part sur un Seth Rollins-Murphy, moi, ça ne me déplaît pas non plus. Ce serait bien aussi que Murphy gagne un push derrière, parce qu'il a quand même bien bossé aussi, lui. Ce n'était pas très valorisant, sa situation. Donc, ce serait bien que derrière, il y ait un petit peu... Une petite récompense pour notre ami Murphy.
Pourquoi pas, ouais. Pourquoi pas. À suivre. Allez, on retourne au backstage où là, on va avoir, on va juste voir le Hurt Business qui se barre de l'arena, quoi. Visiblement, bien heureux d'avoir chopé le US Championship.
Ouais, j'ai pas compris l'intérêt de ce passage d'ailleurs, parce qu'il dure
5 secondes. Ouais, c'est un truc, on se demande vraiment ce que c'est venu foutre, là, juste avant, là, voilà, avant les packages vidéo d'avant-match, etc. Voilà, tout d'un coup, t'as ce plan. Ah bon, bah ok. Et en plus, il passe par une toute petite porte dans un coin et tout, à la discrétos, quoi. Bon, bref, ok, merci le Hurt Business. Allez, bah là, les gars, ça y est, on est au main event, quoi. Là, on est à l'heure. Alors, quand on a fait ensemble tous les trois la review de SmackDown avec la preview Payback, et on était hyper hypé par ce match, ce triple menace, cette triple frite. Voilà, entre Roman Reigns, le Finn Bray Wyatt et Braun Strowman. Et on va avoir les entrées. Alors, l'entrée du Finn, quoi, c'est vraiment toujours quelque chose d'assez incroyable. Et qui va défendre son Universal Championship face à l'ancien champion Braun Strowman. Et puis c'est tout. Voilà. Braun Strowman va attaquer le Finn direct, quoi. Et Roman Reigns, bah, no show. Le mec est pas là. Le mec catche pas. Alors là, problème quand même. Donc ça commence à se cogner vraiment, ça rentre vraiment dans un match vraiment sérieux entre Strowman et The Finn, quoi, qui commence vraiment à se mettre joyeusement. On va avoir un petit intermède, j'ai envie de dire, avec Alexa Bliss qui est en train de regarder le match en coulisses, quoi, et apparemment particulièrement absorbé par le Finn. Vraiment, ça a vraiment été de montrer de manière insistante, quoi. Donc on sent vraiment que la Alexa Bliss qui s'est remise avec la coupe à la Harley Quinn, etc., a peut-être trouvé son Joker avec le Fiend, qui sait. Et puis, bah, du coup, on va avoir un match quand même de 10 minutes. Enfin, alors, le match complet, en fait, dure 13 minutes. Mais on va dire qu'on va avoir 10 minutes de Braun Strowman versus le Fiend. Et chacun, voilà, va avoir un peu son truc, etc. Et effectivement, au bout de 10 minutes, bah, qui va arriver dans un truc finalement tellement Paul Heymanesque. Voilà, il va arriver avec le contrat, Paul Heyman et Roman Reigns, sur la rampe. Et il va signer, en fait, j'ai presque envie de dire comme un cash-in. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, d'ailleurs, quand il s'est passé ça. Quasiment, en fait, il a caché son contrat sur le titre en tronc après 10 minutes, une fois que les mecs sont bien rincés, se sont bien mis dessus. Et voilà.
Ring, hein.
J'allais y venir. Ouais. Il y avait eu, effectivement, au préalable, une énorme superplexe qui avait fait que le ring avait explosé à la manière Mark Henry, Big Show ou d'autres exemples comme ça. Voilà, le ring complètement explosé, les cordes distendues, tout est de traviole, tous les mecs sont explosés au sol. Reigns, donc du coup, il va arriver, il signe son contrat, il fonce vers le ring, il va se défaire du Fiend avec un low blow, le salopard. Hein. Tout ça sous une... excusez-moi, tout ça sous une hit, quand même, assez inédite, avec le Big Dog, en tout cas de cette manière-là. De cette manière-là.
Oui, de cette manière-là, d'accord. Ouais.
Voilà. Et finalement, bah, il va coller un spear à Strowman. 1, 2, 3. Victoire de Roman Reigns qui récupère son titre après ne l'avoir jamais perdu, comme il l'a toujours clamé. Et il va célébrer sa victoire avec Paul Heyman sur la rampe pour terminer ce pay-per-view. Alors, ringside, ce main event, tout ça, t'as pas trouvé, c'était quand même du... Tout ça, c'est la patte de Paul Heyman, quoi. C'est du booking à la Paul Heyman.
Exactement, ouais. Ça aurait été ma conclusion. Je sais pas comment on peut pas être déçu de ce truc-là. Voilà, moi je m'attendais à un gros match entre les trois, gros blockbuster, et tu peux que être déçu quand il manque un des participants, quand le match démarre. Alors ils ont fait le show, hein, quand même, le Fiend et Braun Strowman. Il y a eu des explosions de barricades.
Oui, il y a eu des explosions de barricades, de tables.
Voilà, ils ont été dans le décor du haut du Titan Tron.
La table des commentateurs.
Voilà, ils ont sorti le maillet. Il y a juste quand The Fiend il brise le cou là de
Ah ouais.
C'est ça, j'y crois pas trop. Hein,
moi non plus. Alors,
il le fait trop souvent en plus. Hein, ouais, il le fait plusieurs fois par match.
Ouais, ça c'est nul. Hein. Il faudrait qu'il arrête. Il prend pas assez de notes. Il y a des trucs qui font qu'ils sont pas bien. The Fiend, il faudrait qu'il éraye un petit peu de sa liste. Surtout qu'il est capable de faire d'autres trucs. Quoi. Donc voilà, ça, c'était, ils ont fait le job. Ils se sont bien démerdés. Maintenant, voilà, Roman Reigns qui débarque au bout de 10 minutes de match. Là. Qui essaye de faire le tomber comme la première Carmella venue sur The Fiend, ça passe pas sur Braun Strowman, ah là là. Et là il a l'air perdu, style tout mon plan tombe à l'eau, qu'est-ce qui se passe, donc voilà, il va chercher une chaise, il essaye de leur taper dessus avec la chaise, etc. Bon, il s'en sort quand même en plaçant son spear, le voilà gagnant, mais il paraît pas aussi dévastateur qu'on a apprécié là quand il est arrivé surprise à SummerSlam. Pour moi, c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Comme tu dis, ça pue le booking de Paul Heyman. J'ai l'impression qu'ils veulent faire de Roman Reigns un équivalent de Brock Lesnar, quoi, au final, un mec qui fait des performances courtes et qui vient juste gâcher la fête et puis prendre le titre, quoi. Autant pour Brock Lesnar, moi, je peux accepter qu'on le voit pas souvent, qu'il vienne faire des matchs courts. Je trouve que c'est crédible avec le personnage et qu'il a une aura qui permet ça. Autant avec Roman Reigns, lui, Roman Reigns, il faut qu'il vienne faire le taf. Il peut pas venir et gâcher la fête comme ça. Ça fonctionnera pas avec lui, du moins pas pour moi. J'ai juste une inquiétude parce que j'essaye de comprendre pourquoi le mec il fait pas le match. Peut-être que au final, il peut pas vraiment catcher Roman Reigns parce que s'il venait pas catcher, lui, c'est parce que c'était une personne à risque par rapport au Covid. Par rapport à ses antécédents de leucémie, ça disparaît pas avec le temps. Il est toujours une personne à risque. Donc peut-être qu'en fait, contractuellement, il peut peut-être pas catcher longtemps. Mais du coup, peut-être, en plus, avec l'apport d'Eman et des idées de booking d'Eman, est-ce qu'on n'est pas parti pour avoir un Roman Reigns façon Brock Lesnar qui va faire du no-show et des matchs où on vient nous gâcher le plaisir. Donc là, je suis pas content, je grince des dents et je suis perplexe pour la suite, je suis inquiet pour la suite.
Papy, toi, partages-tu cette inquiétude avec le ringside ?
Je la partage un peu parce qu'au fur et à mesure qu'il parlait, j'étais arrivé à la même conclusion que lui. Donc, qu'effectivement, c'était peut-être qu'il pouvait pas catcher pour l'instant plus et qu'il masquait du coup ça sous ce prétexte-là. Alors après, c'est aussi. Là, franchement, c'était un main event sans surprise de chez sans surprise. À partir du moment où il se prend pas, tu sais déjà comment ça se finit. Je pense que c'était pour si jamais il y avait des gens qui n'étaient pas encore convaincus qui étaient passés. Là, c'est terminé. Voilà, le mec il se pointe alors que les mecs sont par terre. Il leur fout des coups de chaise. Il essaie de faire des tourbillons comme un débile. Effectivement, deux fois de suite sur le film, alors que il voit bien qu'il se relève, quoi. Enfin, il est heel, donc il devient débile. Bref, il s'en sort quand même grâce à un spear après avoir failli se faire choper par la mandible claw du Fiend qui finalement est présenté comme résistant, donc on va imaginer que c'est le futur face de l'histoire. Mais voilà quoi, c'était un main event qui n'était pas mauvais, qui était finalement la continuité du match de la semaine d'avant. Mais qui par contre était absolument sans aucune surprise, quoi. Le ring qui casse, ouais, mais bon, comme on l'a. Enfin, moi, ça fait quand même un paquet de fois que je le vois, ce spot-là, et donc du coup, il me procure pas le même effet, surtout dans une salle vide. C'est pas mauvais, c'était pas mauvais ce qu'ils ont fait, c'était juste sans surprise et sans saveur. Voilà.
Ouais, moi, je suis un peu dans la même idée sur le principe de la déception du blockbuster, quoi. C'est-à-dire que là, voilà, moi j'attaque le truc en me disant oh là 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 là, on va avoir un triple menace de fou là, un truc, ça va être un truc de dingue pendant 10-15 minutes, et puis bah bam, t'as que les deux qui débarquent. Alors, comme justement dit par vous, de toute façon, en termes des spots au niveau du combat, Strowman et Finn, le Finn, ils ont tout donné, quoi. Et vraiment, voilà, on a eu du spot, du fracassage de mobilier dans tous les sens et tout ça. Mais effectivement, voilà, tout se finit, et puis pour voir finalement le Big Dog. Alors évidemment, là, c'est pour l'installer dans son rôle de top heel ultime, superstar, face de la compagnie en même temps. C'est compliqué, Roman Reigns, le positionnement Roman Reigns. Et, et le faire gagner de cette manière-là. Alors, moi aussi, comme toi, Ringside, j'ai eu un souci aussi sur son arrivée dans le ring quand il a porté les tombées. Alors là, j'ai trouvé ce moment super mal foutu, quoi. Vraiment.
Je pensais qu'il allait les atomiser à coups de chaise, moi.
Mais moi, c'est pareil. Alors, bah, il a mis des coups de chaise, mais c'est, tu veux, le tout début, quoi. Voilà. Il arrive, en fait, il a une chaise dans les mains et juste avant de monter dans le ring, il la jette. Là, il monte et il fait cette session de tentative de tomber, mais ah, pour le coup, ça tombait à plat, quoi. Voilà, quoi. C'était vraiment pas bien réfléchi, ça. Je comprends pas pourquoi ils ont décidé de se.
C'est vraiment pour ceux qui ont encore un doute sur le fait que Ryan soit un heel ou pas, quoi. Comme ça, tu dis, ah bah, t'as vu, il est couard comme un heel. Il profite de la faiblesse des autres.
Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. Mais c'est vrai que bah, visuellement, déjà, ça rendait pas génial. Et puis voilà, et puis bah, pour le coup, finalement, attendre les coups de chaise, finalement, il colle ce loblo pour coller un spear derrière. Bon, bah voilà, terminé mesdames, qui a fait plus l'addition, et puis c'est terminé là-dessus. Il récupère son titre. Voilà, il faudra quand même noter que le Finn n'aura gardé le titre qu'une semaine. là, pour le coup, règne express.
Bah ouais, et mais le Finn, il a appris à ne plus sentir la douleur, sauf quand on lui met un coup de pied dans les parties. Alors ça sert à rien son entraînement. psychopathe, si tu peux l'avoir juste en lui explosant.
Donc voilà, c'est ainsi se termine ce payback 2020 avec la victoire du Big Dog, voilà, qui entame un nouveau règne. Donc je pense qu'à la Fox, on doit être largement satisfait. Et alors voilà, donc on arrive. Bah,
alors, attends, ça a coupé.
Ouais, ah, ça a craché, j'ai
pas entendu. T'as pas entendu du tout.
Ah, pardon. Alors, je sais plus ce que je disais, du coup. Bah, j'étais en train de dire qu'on arrivait finalement sur la procédure habituelle catch-up-esque, puisque mes amis, le Trios va vous donner son top flop note. Mon papy, à toi l'honneur. Fire!
Alors, mon top, je vais commencer par le top parce que je suis plus sûr de mon coup sur celui-là. Mon top, eh ben, je vais le donner, ce sera peut-être une surprise, mais je vais le donner au match féminin, parce que globalement, c'est le match qui a le plus retenu mon attention de bout en bout, en fait, finalement, et une bonne durée et un bon contenu. Je ne vais pas dire que le Keith Lee Orton, je n'ai pas regardé bout en bout, mais il était tellement court que c'est plus facile. Là, elles ont fait quand même un bon 10 minutes de match et c'était très intéressant. Donc, puis surtout, ça, comme le disait Ringside, on a Baszler et Nia Jax en plus qui reviennent dans la division féminine. Donc, c'est pas plus mal qu'on ait des nouvelles têtes dans cette division, même si ça m'a fait perdre mon prono. Merde. Mon flop. J'allais le donner à Corbin pour la deuxième fois de suite en deux jours, mais finalement, je vais le donner au main event sans surprise, en fait, parce que ouais, ça. Ça m'a dérangé d'attaquer le main event en devinant déjà la fin, en fait. En me disant, putain, il va. C'est pas vrai qu'il va rien se passer de surprenant. Bah, si, c'était ça. Et donc, c'était trop vu et revu et sans surprise. Et ma note, du coup, bah, je vais baisser ma note parce que, du coup, vu qu'on finit sur un show sur un petit goût de pas top, et bah, du coup, ça me gâche un peu le plaisir du show. Et donc, je vais mettre finalement un petit 2,75 parce qu'il y a eu. Voilà, les filles c'était pas mal, les tag team masculins c'était pas mal aussi, et voilà, il y a eu d'autres trucs qui étaient un peu plus moyens, donc surtout la fin là, ouais, ça laisse un goût moyen dans la bouche, donc 2,75 de pas totalement satisfait du pay-per-view que j'ai acheté.
Ouais. Ringside, alors ta sentence.
Ma sentence, je vais donner mon flop au main event, hein, parce que effectivement, j'ai grincé des dents. C'est le seul moment où j'ai grincé des dents pendant le show. En plus, je ne suis même pas sûr que ce soit le bon moment de faire tourner heel Roman Reigns, mais bon. Voilà, donc le flop va à ce main event. Et le top, bah, je vais le donner je vais faire comme papy, en fait. Je vais donner aussi mon top à Sasha Bailey et compagnie. Parce qu'effectivement, c'est le meilleur match de la soirée. C'est ce qui était le mieux booké. C'est le payoff de la rivalité. Et le match était super cool, quoi. Donc voilà, je vais peut-être être un peu plus généreux que Papy. Je vais mettre un 3. Tous les matchs étaient bons, hormis même le main event. Au niveau de l'exécution, c'était pas mauvais. C'est le booking vraiment de fin. Cette intervention de Roman Reigns qui a pas de sens, mais. Enfin, qui a un sens, mais qui est pour moi un mauvais choix. Sinon, The Fiend et Strowman n'ont pas à rougir du tout de la performance qu'ils ont faite. Voilà, encore une fois, c'est un pay-per-view où tout le monde s'est levé le cul. Donc voilà, je donne quand même à 3.
Ok. Et bah écoute, moi je vais donner mon flop aussi sur le main event, enfin en particulier sur ce finish, quoi, et sur vraiment cette déception de s'attendre à un gros match énorme de triple menace. Voilà, moi j'étais vraiment super chaud sur le main event en fait. C'était vraiment ce payback, j'en attendais pas grand chose. Il n'y avait pas d'affiche qui me sortait du lot à mon goût plus que ça. Donc c'était vraiment pour moi l'attrait principal de ce payback, c'était le main event. Et vraiment, comment c'est tombé à plat. On aura eu Roman pendant 2 minutes à la fin, avec en plus des choses choisies sur le booking quand même assez particulières. Voilà, on est dans du Paul Heyman booking. Moi ça m'a donné la sensation d'un espèce de cash-in, quoi, et c'était assez étrange quand on sait d'ailleurs coucou Otis is alive. Quelqu'un a des nouvelles d'Otis? Est-ce qu'il est porté disparu dans ce pay-per-view? Quelqu'un l'a vu, aperçu?
Il bosse pas les dimanches.
Si c'était pointé là, j'aurais été surpris.
Ouais. Donc pas de Otis, bien évidemment, pas de cash-in attendu. C'est Roman Reigns qui l'aura fait façon contrat. Voilà, donc moi, ça, je leur donne mon flop pour ça. Mon top, moi, j'hésite. Vous avez donné tous les deux aux femmes, hein, quand même. Hein, vraiment, chapeau, quoi. Moi, j'hésitais entre pour l'impact de Kisly, mais finalement, on a Kisly et Biggie, là. On a deux mecs un peu similaires, là, qui sont en train de, tous les deux, à leur manière, d'avoir une fusée à Raw et à SmackDown. Donc, Et puis, il y avait le match familial. Moi, j'ai bien aimé le match familial, quoi. La famille. Allez, je vais donner le match familial, quoi. Papa et fiston, qui gagnent le match contre Seth Rollins et Murphy dans un bon match de catch. Moi, j'ai trouvé que ça envoyait bien, c'était bien sympa. Donc, je vais leur donner mon top. Et puis, ma note, j'aurais certainement été sur un 3 si le main event m'avait convenu, mais là, c'est pas du tout le cas, donc ça va faire perdre. Donc, c'est vrai que vous avez raison, c'était pas mal sur l'ensemble, quoi. C'était globalement pas mal. Le Biggie chez eux, ça a été solide quand même, quoi. Bon. 2,75. Allez. Royal Obar, 2,75 pour ce payback 2020. Fou! Eh ben.
On y est arrivé.
Que d'émotion.
Ouais. Que d'émotion, ouais. Eh ben voilà, écoutez. Peuple de catch-up, on est arrivé au bout de cette analyse de payback 2001. 2020, 2001, ouais, putain, ça serait bien. Hein. Oh là là, j'aimerais bien être en 2001.
Oh là là.
Et voilà, donc c'est là-dessus qu'on va se quitter. Alors, pas tout à fait, bien sûr, parce que vous connaissez la procédure. On va se quitter sur notre fameux autoprono qui nous est envié de par le monde. Donc, vous pouvez nous retrouver sur tous les réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et Instagram. Vous nous retrouvez sur le site officiel catchup.lepodcast.fr. Vous nous retrouvez sur YouTube, actionnez la cloche, abonnez-vous, laissez-nous des commentaires. Venez sur le Discord, bien évidemment, quand on parle sur nos reviews, là, des différents Discordeurs là, qui ont participé aux pronostics et tout ça, c'est sur Discord qu'on récupère tous les avis, commentaires et autres pronos de la part de nos Discordeurs magiques du peuple de catch-up. Et bien évidemment, vous le trouvez sur toutes les bonnes plateformes de podcast, Apple Podcast, Podcloud, Spotify, Deezer et Google Podcast. Voilà, j'ai fait le tour. Mes amis, mes vieux amis, ça va ?
Donc, on n'a pas donné l'avis de Raph.
Oh, ah oui.
Alors, ça, c'est pas sympa.
Il avait laissé un bel avis, Raph.
Voilà, attendez, on va réparer cette erreur.
Est-ce que tu l'as, ton avis ?
Mais oui, parce que notre bon Raphaëlier avait donné son avis sur le pay-per-view. Et voilà, on était tellement chaud, tellement lancé dans cette affaire. Alors, je vous le lis, je l'ai, cet avis, c'est l'avis de payback de l'ami Raphaël hier. Donc, plutôt positif. Petit show passé vite, mais plutôt bien passé. Lashley victorieux, c'était court, mais sympa. Vraiment bon match entre Biggie et Sheamus. Deux mecs en super forme. Moins fan de Corbin. Toujours, comme toujours. Les filles ont fait une performance rythmée, énergique. Ils vous rejoignent, je crois bien. Hein. Mmh. Avec une Naya dominante et destructrice et une Baszler impressionnante. Heureusement qu'elles vont vite pas s'entendre, ces deux, sinon elles lâcheront pas le titre de sitôt. Quel move final de soumission. Comme quoi, voilà. Le squash d'Orton, inattendu, très bonne surprise. L'affaire Mysterio, ça reste dynamique et sympa. Dominique progresse. Mais bon, ça tourne dans tous les sens et un peu en rond. Enfin, l'erreur arbitrale de lancer le main event avant l'arrivée de Reigns fait chier ma suspension d'incrédulité. Cela dit, entre Braun et Finn, sa patate dure. Roman en agit en pur connard et toujours pas de Retribution quand lui est là. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de Retribution. Et pour cause. Et mon hypothèse persiste. Ok, donc son hypothèse à Raphaël, hein, c'est que Roman Reigns, c'est le leader de Retribution. Je le précise. Et donc sa note, c'est un 3. Et son top pour Kisly et son flop pour Baron Corbin.
Oh, pauvre Baron.
Le Baron, et voilà. Vous ne pouvez pas s'en sortir sans un flop, celui-là.
En tout cas, le Raphaël, il vous rejoint sur les filles, sans aucun problème, quoi. Il me rejoint plutôt aussi sur l'affaire Mysterio, comme il appelle ça. Et Squad Jordan inattendu, moi aussi, j'ai pensé à peu près la même chose, quoi. Et finalement, lui, la fin avec Reigns et tout ça, quoi, ça a eu l'air quand même de le
ça fait chier sa suspension d'incrédulité, quand même.
Ouais, voilà.
Donc il devait être perturbé comme nous, quand même.
Mais c'est quoi cette connerie? Pourquoi ils démarrent le match alors qu'ils sont pas tous là?
Ouais, ça fait chier sa suspension d'incrédulité, mais c'est ce qui se passe avant le match, quoi. Finalement, après ce qu'il dit sur la suite et sur la fin, pour lui, voilà, Roman, il agit en pur connard. Ce sont ses mots, hein. Cela n'engage que lui, hein.
C'est vrai. On se permettrait pas, nous.
Voilà, c'est lui qui l'a dit, hein. On connaît son adresse. Voilà.
Bon, ben voilà, bref, c'est sur ces bonnes paroles, cette dernière analyse de notre ami Raphaël, qu'on va se quitter. Mon papy, merci d'être venu.
Bah, merci pour l'invitation. Coup sur coup, deux pay-per-view, deux analyses, bravo.
Il y a de la tarte au citron à lait de pâte ce soir. Tu vas voir, on va y aller.
Ça change du flan.
Mon ignoble Rickside, je te souhaite une bonne soirée pleine de catch japonais.
Ah, bah oui, je vais peut-être faire une pause sur le catch japonais. J'ai pris ma grosse dose ce week-end, mais. Je reprendrai sûrement demain, hein, une petite part de 4 japonais ou un bon Monday Night Raw. Mais en tout cas, merci pour l'invite, merci pour cette présentation. C'est toujours un plaisir de bosser avec vous, monsieur Tonton et l'ami Papy.
Mais oui, nous sommes tous des amis.
Allez, c'est sur ces belles paroles qu'on vous renvoie vers les reviews qui sont déjà sortis, comme la baston du mercredi, le SmackDown, même si vous avez les pronos de Payback. Voilà, c'est un peu déjà passé, c'est comme ça le cas, ça va à 1000 à l'heure tout le temps, quoi. Ne manquez pas cette semaine l'analyse de Monday Night Raw de SmackDown. Voilà, on vous souhaite une bonne semaine pleine de catch, on vous fait des bisous, on vous fait des cordes à linge plein la face. Salut papy, salut Ringside,
salut tonton, salut à tous,
salut tout le monde,
salut peuple de gadget.
Encore fait
saturer dans ma cuisine.
T'as complètement fait saturer le bordel.
Oui, donc du coup, c'est plus si t'as fini de crier ou pas, en fait.
Est-ce que tu es encore en train de crier ou est-ce que